Vous écoutez
RMC. RMC, le dossier des GG.
Alors, qui a dit que les joueurs de tennis étaient parfois trop sages, trop lisses? Une vingtaine d'entre eux ont décidé de porter plainte cette semaine contre leurs instances dirigeantes, à savoir la ATP, la WTA, l'ITF ou l'ITIA. Une série d'actions en justice menée par l'Association des joueurs de tennis professionnels, cofondée par Novak Djokovic en 2019. L'objectif, dénoncer le traitement que ces joueurs subissent actuellement sur le circuit. Alors, pour bien comprendre la situation, et ensuite on parlera, évidemment, on élargira le débat aux instances et au pouvoir des sportifs. On va retrouver notre spécialiste tennis, Eric Salio. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Alors pourquoi ces joueurs
à nous aussi, Eric,
ont décidé de porter plainte, tout simplement?
Ouais, c'est vrai que la bombe a explosé en début de semaine. Ça semble sérieux parce que la PTPA s'appuie notamment sur un avocat, James Quinn, qui a longtemps travaillé avec les syndicats des joueurs en NFL et en NBA. Alors quels sont les principaux reproches? D'abord, on subodore que les instances dirigeantes se sont entendues pour plafonner le prize money des tournois et limiter la capacité des joueurs à gagner de l'argent en dehors des cours. Concrètement, on met des barbelés pour éviter les fameuses exhibitions. Autre grief, la redistribution des bénéfices des grands chelems jugés trop faibles. Le chiffre actuel est de 17%. C'est très très loin de ce qui se pratique dans le golf, la NBA ou le foot américain. La PTPA s'appuie aussi sur un chiffre fou et qui va vous faire réagir. La vente de cocktails à l'US Open a généré 12 800 000 dollars. Soit plus que ce qui était versé aux deux vainqueurs de
simple. Ouais, mais ça, c'est Marion aussi, hein, qui a fait monter.
C'est vrai qu'elle a consommé énormément.
J'en étais témoin, à mon avis.
En gros, ce syndicat en a marre que les ordinateurs se goinfrent. La PTPA dénonce aussi un mépris flagrant du bien-être des joueurs. Elle fait allusion aux matchs qui sont lancés autour de minuit. Le syndicat est aussi désespéré de voir que seulement 400 joueurs, en gros 200 joueuses, 200 joueurs et 200 joueuses, donc, vivent correctement de leur sport. Le circuit Challenger est une jungle. Je vous donne un exemple. Si tu perds au premier tour cette semaine à Murcy, tu rapportais 950 euros. C'est-à-dire que tu perds quasiment de l'argent. Et là, on parle de mecs qui sont dans le top 200 de leur discipline. Novak Djokovic n'a pas validé le terme cartel, mais on devine que le fait que l'Italie s'accapare toutes les épreuves annexes, le Masters, la phase finale de Côte d'Ivoire, ça commence à agacer. Et je rappelle que le président de l'ATP, Andrea Agnelli, est italien. Mais pour que le mouvement fasse trembler les instances, il faudrait que tout le monde prenne les fourches. C'est encore loin d'être le cas. Les nantis qui finissent l'année avec plus de 10 millions de dollars de gains hésitent à apposer leur signature.
Ouais, déjà, Alcaraz s'est désolidarisé. Et puis, je vous parlerai aussi de Novak Djokovic qui a parlé hier, ou en tout cas en cette fin de semaine, après évidemment ce dépôt de plainte. Merci Eric Salio. Tu restes avec nous évidemment pour ce débat parce que c'est très intéressant. On va l'élargir. Mais déjà, Marion, c'est évidemment ton sport. Est-ce que tu arrives à comprendre cette plainte déposée par quelques joueurs de tennis?
Alors, je me suis entretenue hier avec Romain Rosenberg, qui est donc le directeur exécutif de la PTPA, c'est le numéro 2 de la PTPA, pour qu'il m'explique vraiment exactement les dépôts de plainte qui ont été déposés. Donc, en fait, ça a été déposé sur 3 juridictions différentes, à New York pour les États-Unis, à Londres et également auprès de l'Union européenne, à Bruxelles. Et en fait, le fond du problème, et je vais vous citer un exemple qui va être extrêmement parlant, c'est justement sur les price money, comme l'évoquait tout à l'heure Eric. En fait, il y a un plafonnement qui est régi par l'ATP, donc, et la WTA également, qui dit qu'effectivement, la répartition des price money, en fait, c'est eux qui la font. Et c'est pas les tournois. Alors, il y a un tournoi qui s'appelle le tournoi d'Indian Wells qui vient de se dérouler. Là, en ce moment, les joueurs sont à Miami. Indian Wells, c'était la semaine dernière. Et le patron du tournoi d'Indian Wells s'appelle Larry Ellison. C'est un milliardaire qui a fondé le logiciel Oracle, qui vient de la Silicon Valley et qui, lui, avait l'intention d'augmenter les price money cette année pour les joueurs et les joueuses en se disant, mais finalement, si on donne un chèque qui est plus gros à la fin, ça fait plus parler de mon tournoi. Il y a plus d'attention médiatique. Les stars de Hollywood vont plus venir pour assister à mon tournoi. Les sponsors vont être contents. Donc, finalement, tout le monde est content, cet écosystème économique me convient et moi je veux donner plus d'argent aux joueurs et aux joueuses. Sauf que l'ATP, la WTA lui ont dit non, puisque c'est nous qui déterminons le gain réparti aux joueurs et aux joueuses du premier tour des qualifications jusqu'au vainqueur final, que ce soit en simple ou en double. Donc c'est pas à vous de nous dire comment on répartit l'argent. Et en fait, le fond du problème de cette plainte qui fait quand même 160 pages il est vraiment orienté là-dessus. Ensuite, effectivement, il y a aussi la partie des matchs qui sont lancés trop tard, il y a la partie de la violation des droits du travail, il y a la partie du droit à l'image également, mais vraiment le plafonnement artificiel des price money, c'est là où les joueurs et les joueuses se battent le plus, en se basant sur la loi antitrust, en particulier aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils ont pris ce gros avocat américain qui, lui, a travaillé sur le procès de la NFL, puisque la NFL aujourd'hui a fait jurisprudence, ce que je ne sais pas si vous rappelez, mais auparavant, effectivement, chaque joueur était assigné à un club, à une franchise précise, et donc il y avait ce système de free agency, donc où les joueurs réclamaient de pouvoir bouger de franchise tel qu'ils le voulaient. La NFL avait déclaré que ça serait la fin de leur ligue si jamais on faisait ça. Or, aujourd'hui, la NFL est de loin le sport qui génère le plus d'argent. Il faut savoir que dans le tennis, de manière globale, génère un revenu annuel d'environ 2,5 milliards de dollars. Ce qui peut paraître beaucoup, mais ce qui n'est pas beaucoup, parce que le cricket, qui est un sport pratiqué quand même que par quelques pays, génère déjà, lui, 3,5 millions de dollars.
Donc, c'est ce qui est dénoncé par les joueurs, c'est qu'ils n'ont pas assez de ces revenus. Rapidement, non, Marion, après, on passe la balle.
Vas-y. Très rapidement. Mais le problème, c'est que c'est pas, bien sûr, Djokovic, Sinner, Alcaraz, il y a des millions et des millions qui vont se plaindre. Mais aujourd'hui, il faut bien savoir qu'un joueur qui est 80e mondial, même pas 150e ou 200e joueur, quelqu'un qui est capable de rentrer par son classement dans tous les tournois du Grand Chelem, ce qui est déjà un excellent classement et qui est déjà très dur à accomplir. Il faut bien savoir qu'au début de sa semaine, c'est à lui de payer son entraîneur, c'est à lui de payer son préparateur physique, c'est à lui de payer son kiné s'il en a un. Et tout ça, ça a un coût. Et ça a un coût qui est élevé. Et vous ne gagnez pas d'argent quand vous ne jouez pas. D'accord? À moins d'avoir des sponsors élevés. Mais encore une fois, si vous êtes 80e mondial, généralement, vous n'aurez pas des sponsors élevés. Donc votre revenu majeur revient de votre price money que vous gagnez dans chaque tournoi. OK? Donc aujourd'hui, même sur un Master 1000 qui est quand même fait partie des très gros tournois, après les 4 tournois du Grand Chelem, c'est les tournois qui donnent le plus d'argent. Si vous perdez au premier tour de ce tournoi, vous perdez de l'argent. C'est-à-dire qu'entre le fait de payer vos billets d'avion, de payer vos billets d'avion de toute votre équipe, leur hôtel.
Alors attends, on a avant les solutions.
C'est la répartition. C'est la répartition. Mais oui, bien sûr, c'est la répartition qui doit être meilleure.
Novak Djokovic qui a déclaré, et c'est vrai qu'il est dans une position délicate parce que c'est lui qui a cofondé cette association des joueurs de tennis professionnels. Non, mais délicate parce que maintenant, est-ce qu'il peut signer? Il dit, je pense pas devoir signer parce que je veux que d'autres joueurs s'impliquent. Je pensais que c'était aussi mon rôle de soutenir les joueurs et de me battre pour leurs droits. En 20 ans sur le tour, j'ai vu des changements, mais il y a des changements fondamentaux qui n'ont pas encore eu lieu. Voilà, donc il dit aux autres de se positionner.
Ouais, il faut qu'il signe lui.
Et c'est vrai que lui, il a une résonance et un écho évidemment fondamental. Déjà, de voir des joueurs de tennis qui portent plainte contre leurs instances, est-ce que vous, ça vous paraît aberrant quand vous connaissez votre sport, par exemple le vélo, où on se demande souvent quel est vraiment le rôle et le poids des sportifs?
Moi, Jérôme Pinault. Je trouve ça fantastique. Et j'aimerais que beaucoup d'autres acteurs et de nombreux sports et dont le mien fassent d'eux-mêmes. Là, on parle d'argent, mais on parle aussi de trop de matchs, de la sécurité. On parle énormément. Il y a énormément de soucis dans le mien de sport, mais moi, je trouve ça bien. En fait, ils se prennent en main. Alors, évidemment que si le meneur ne signe pas le premier et se met pas en avant, ça peut pas marcher. Il faut aussi. Moi, je tire mon coup de chapeau à ces joueurs, à ces joueuses qui disent stop. Et qui disent à un moment donné, si nous, on dit stop, il n'y a plus rien autour. Et c'est ça qui est important, c'est que l'écosystème,
grève,
il part.
Grève, hein, pour qu'il y ait un vrai
et comment font les joueurs NBA? Lockout terminé, on ne joue plus, vous n'êtes pas d'accord? L'oseille que vous gagnez tous, c'est grâce à nous sur le terrain.
Et là, en NBA, ça, moi, je trouve que l'exemple est flagrant, c'est-à-dire que les sportifs, les joueurs de NBA ont plus de poids que la NBA en elle-même.
Mais ça devrait être le cas dans beaucoup de sports, par tous les sports, parce que le spectacle sur la pelouse, sur les pelouses, sur les courts, sur la route. Moi, j'ai toujours dit ça. Les équipes, c'est important. L'organisateur est très important. Mais la base, au Tour de France, le jour où on enlève les coureurs, la course, c'est pas la même. Le spectacle, il n'y a plus de spectacle. On doit quand même être conscient.
Ouais, mais si tu dictes tes conditions aux organisateurs qui.
Je ne vais pas dicter des conditions.
Au moins, en ce moment, dans le vélo, il y a des conditions à toi et te dire
on n'est pas d'accord avec ça.
Non,
ça,
mais d'accord,
et
mais
ça,
j'ai en
d'une
moment,
seule et même voix. C'est
en
ça
ce moment,
le
dans
important.
Le vélo, il y a un peu une bataille entre d'un côté les coureurs, de l'autre côté les organisateurs. Les coureurs reprochant aux organisateurs de ne pas assurer la sécurité, de les faire repartir quand il pleut et tout ça. Moi, je veux bien. Mais si tu annules toutes les courses, tu ne les fais pas repartir. Demain, les coureurs cyclistes n'auront plus de boulot. Parce que les organisateurs fabriquent des courses, les courses auxquelles participent les coureurs, et c'est dans ces courses qu'ils sont payés. Donc à un moment donné, il faut aussi arriver à un juste équilibre. Ouais. Tu peux pas tout révolutionner en disant on veut des meilleures conditions.
Il y aura toujours des courses pour l'élite. Le problème du tennis qui est dénoncé là, c'est, et c'est la position de Djoko, c'est de dire, moi je fais partie des privilégiés. Ouais. Mais derrière les 80, les 80, après ça, les 80 oui. premiers, et nous dans le vélo, c'est ça, Christophe, ce qui va se passer, c'est que les grandes équipes.
Vous, le modèle économique,
les grandes équipes vont rester. Il faut compliqué. Savoir quand même que dans d'autres sports, des teams entières, et donc là, les coureurs vont réagir, je finis juste, des teams entières sont menacées de disparition. On s'est bien moqué de ce qui m'est arrivé pour certains il y a 2 ans. Il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui. Je peux te dire que c'est chaud. 2 d'entre elles vont certainement disparaître en fin d'année.
Il y a des courses qui sont en menace disparition de plus en plus. Tout le monde est lié. Donc il faut aussi qu'il y ait une espèce de solidarité entre organisateurs, entre fédérations, entre acteurs, entre anciens acteurs.
Et entre sportifs surtout, parce que sinon ça a peu de chances d'aboutir. Denis, après Marion,
dans le rugby, il y a 6 mois ou 1 an, je ne sais pas, c'est Antoine Dupont qui est monté au créneau, souvenez-vous, qui a dit que les joueurs de rugby touchait pas assez d'argent. Je sais pas si vous vous souvenez de cette sortie qu'il avait faite et à juste titre quelque part, parce que c'est vrai que par rapport au football, mais en même temps la réalité c'est la réalité parce que l'économie, bah évidemment, l'économie de ce sport ne permet pas de payer les joueurs plus. Déjà lui c'est un privilégié, mais je comprends son raisonnement, mais la vérité c'est que si tu fais parler dans l'occurrence Antoine monte au front avec il commence à dire pour laisser camarades parce que c'est le plus médiatique. Mais en même temps, pour en parler à Thomas Lombard, à des acteurs qui tiennent des clubs, mais c'est...
Ils peuvent pas, mais ce que nous dit Marion, là, dans l'exemple du tennis, c'est qu'ils peuvent. C'est la répartition qui va pas du tout.
La répartition sur les gros tournois du Grand Chelem, Marion, mais est-ce que
même
sur les...
Pas uniquement, les même les Master tournois, 1000.
Un 250, par exemple. Est-ce que les mecs, les organisateurs roulent sur l'or à tel point qu'ils se payent des Porsche et tout ça? Comment ça se passe dans ce système-là?
Non mais en fait, si tu veux, même toi en tant que joueur, faut bien comprendre que ton année financière, tu l'as fait sur les tournois du Grand Chelem et des Master 1000. C'est pour ça que c'est vital pour les joueurs d'avoir un classement qui leur permette de rentrer dans les tableaux finaux de ces tournois, parce qu'il y a entre guillemets que là où tu gagnes de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu fais un ATP 250 ou un WTA 250, si tu n'atteins pas au minimum la demi-finale, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent sur la semaine parce que t'as trop de frais. Donc en fait, ce que font les joueurs malheureusement, c'est que ils hypothèquent leur performance pour essayer de pas perdre de l'argent quand ils jouent au tennis. Donc ils vont se dire, finalement l'entraîneur, je vais pas le payer seul, je vais essayer de le partager avec une autre joueuse ou même à 3. Le préparateur physique, on va partager ses frais. Donc en fait, au lieu de faire une séance individuelle, tu le fais à 2 ou à 3, etc., etc., pour essayer en fait de finir quand même la saison, l'année, en ayant gagné de l'argent, parce que au final, ces personnes-là, tout le monde va arrêter le tennis à 30 ou 35 ans. Et combien de personnes peuvent se reconvertir dans les médias ou avoir une reconversion en se disant, finalement, je vais continuer à gagner de l'argent après mon premier métier qui est d'être joueur de tennis. Et c'est là où Djokovic, en fait, pourquoi il n'a pas signé? Je terminerai là-dessus pour laisser mes camarades répondre. C'est parce qu'il considère que, parce qu'en fait, si cette plainte va jusqu'au bout, il va falloir que quelqu'un vienne témoigner à la barre. Dans un des tribunaux où ils ont déposé leur plainte. Si c'est Novak Djokovic qui vient témoigner, et tout le monde sait qu'il est riche à centaines de millions, vous comprenez bien que ça n'a pas une portée auprès des jurés qui est aussi importante qu'un joueur qui est 70e ou 80e mondial et qui finit l'année en ayant fait un bénéfice peut-être de 80 000, 100 000 euros. Alors oui, bien sûr, 80 000, 100 000 euros, c'est une somme qui est importante. Et loin de moi de dire que les joueurs de tennis sont pauvres, bien évidemment. Je sais par rapport à des personnes qui travaillent tous les jours que c'est une grosse somme. Mais en tant que joueur de tennis, à 30 ans, 32 ans, 35 ans, ça s'arrête, vous n'avez plus de revenus.
80 000 pour malheureusement, un cycliste, c'est beaucoup aussi, hein, je te rassure.
Voilà, donc, mais oui, exactement, mais à 30, 35 ans, si tu n'as plus d'argent, parce que tu n'arrives plus à te reconvertir et tu gagnes plus d'argent, pour faire ça, de vivre jusqu'à la fin de ta vie avec l'argent que tu as mis de côté quand tu n'as gagné que 80 000 ou 100 000 euros par l'année, voilà, ça, c'est un petit peu compliqué. Surtout, encore une fois, que dans notre sport, on a la possibilité d'avoir une répartition des prix meilleurs. On demande pas que ce soit plus réparti pour les vainqueurs. Les vainqueurs gagnent assez. C'est vraiment pour les premiers, deuxième, troisième tours, pour les joueurs qui galèrent. Ben oui, bien sûr.
Et maintenant, je viens de comprendre, enfin, avec ce débat, au bout de 5 ans, pourquoi j'avais autant de tennisman et tenniswoman dans cette émission. Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Julien Beneteau, parce qu'il faut à un moment donné se reconvertir. Florence Serra. Enfin, d'accord. Mais je comprends tout maintenant. OK. C'est pour ça que j'ai eu acte de candidature de Roger Federer. De Joe Tsonga, de Raphaël Nadal je comprends maintenant. Voilà. En tout cas, c'était passionnant et on suivra ce dépôt de plainte. Évidemment, merci beaucoup Eric Salio.